Bonjour à tous, bonjour Anne-Cécile.
Bonjour Arnaud.
Aujourd'hui, nous allons partir dans le royaume de Banté, au Bénin.
Oui, un royaume où les chasseurs ont décidé de préserver leurs ressources naturelles.
Un jour, j'étais allé à la chasse. Là où j'étais debout, j'ai tué 5 éléphants. Et après, aujourd'hui, je commence pas à regretter. Pourquoi ce jour-là, sur place, j'ai tué 5 éléphants au lieu de 1 ou 2 pour laisser les autres reproduire. Donc, raison pour laquelle j'ai accepté que si on pouvait sauvegarder la forêt, les animaux vont revenir parce qu'elles ne sont pas totalement mortes, elles ne sont pas finies.
Les organisations traditionnelles des villages qui entourent la forêt de Tobé, qui fait à peu près 12 000 hectares au Bénin, se sont réunies autour du roi de Banté, de la confrérie des chasseurs, pour établir, grâce à un processus de concertation, des règles de gestion de leurs ressources naturelles. Les chasseurs du royaume de Banté, un reportage de Lydia Banitsak, à découvrir tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
Vive la jeunesse! 75% des jeunes Français se considèrent plus impliqués dans le respect de l'environnement que leurs parents.
Et c'est vous qu'on vient d'entendre, Yolaine Delabigne. C'est incroyable, vous êtes en jingle et vous êtes en vrai dans le studio. C'est la magie de la radio.
Oui.
Bonjour. Alors vous êtes journaliste, hein. Vous avez créé en 2007 le magazine gratuit Néoplanète, le premier magazine gratuit, positif et glamour sur le développement durable. Puis le site Néoplanète et depuis septembre la web radio dont le slogan est la Green Attitude, un nouvel art de vivre. On peut dire que c'est un projet en pleine expansion, hein. Comment est né votre intérêt pour ces questions écologiques ?
Elles sont dites d'une manière un peu personnelle. Quand j'ai quitté Paris il y a à peu près 16 ans, je suis retournée dans la maison de campagne où j'allais petite. Et petit à petit, il y a plein de choses qui m'ont paru hallucinantes. La terre toute orange quand on avait mis des pesticides dedans. Plus d'oiseaux, plus de hérissons, quasiment plus rien, quoi, une espèce de désert et tout. Il faut dire que moi, je suis en Côte d'Armor, donc c'est vrai que c'est une région... Maintenant, il commence à faire des progrès.
C'est la Bretagne, été, dans l'ouest de la France.
Qui est Côte d'Armor, en Bretagne, ouest de la France. Et là où il y a énormément de porcheries, il y a beaucoup de porcs en stabulation, beaucoup d'élevage de viande. Et donc oui, là, il y a eu un choc. J'ai un mari qui est architecte paysagiste, donc son métier, c'est de planter des arbres. Donc on a commencé à planter des kilomètres et des kilomètres de haies. Et alors, vous allez me dire que j'aime bien être positive, mais c'est vrai que ça, j'en ai la preuve. En quelques années, en très peu d'années, dans ces haies sont revenus plein d'oiseaux, plein d'animaux. Et maintenant, je dirais qu'on est comme un petit paradis au milieu de terres très agricoles. Il y a à nouveau plein d'animaux, plein d'oiseaux. Et la nature est revenue, a repris ses droits. Quand on la laisse un peu, elle reprend ses droits assez vite.
En même temps, il faut se méfier aussi de la nature. Hein, puisque pour commencer ce tour de l'actualité, Arnaud, il y a cette alerte de l'ONU sur les criquets pèlerins. Un fléau qui a déjà causé d'énormes dégâts en 2004 dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest.
Oui, d'après les experts des Nations Unies, les conditions météorologiques sont favorables au développement et au déplacement de criquets pèlerins qui, depuis cet été, ont commencé à envahir le sud du Maroc, le Sahara occidental et l'ouest de la Mauritanie. Pour Elisabeth Beer, la porte-parole des affaires humanitaires, je cite, « Les larves et criquets commencent à se regrouper de façon inquiétante et s'il y a des pluies importantes dans les 2 mois qui viennent, la situation risque de se détériorer. Il faut être extrêmement prudent et lancer un cri d'alarme avant que la situation ne dégénère. Alors, pour l'instant, près de 1300 hectares ont été traités en Mauritanie avec des insecticides pour tenter d'endiguer le phénomène qui pourrait avoir évidemment des effets catastrophiques pour l'agriculture des pays d'Afrique de l'Ouest. Les pesticides, c'est pas génial, mais les criquets non plus. Yolaine Abine, comment vous recevez ce genre d'informations ?
On est en train de payer 30-40 années, enfin il y a eu avant, mais surtout 30-40 années de gestion déplorable. On a tellement épuisé la terre que ça, c'est malheureusement une catastrophe qui ne va pas être la seule. Hein. De toute façon, il va y avoir des invasions de criquets, l'eau est de plus en plus polluée partout, la désertification qui avance, il y a certains endroits où vous voyez des vents de sable qui n'avaient pas lieu d'être, le réchauffement climatique, enfin, malheureusement, on le sait. Je pense qu'il va y avoir des tas de catastrophes, ça c'est très clair. Il faut par contre qu'on ait la vraie volonté politique et économique tous de réagir. Il y a des milliers de choses à faire, mais il faut qu'on y aille, quoi. Alors Copenhague va être un tout petit, j'espère, un tout petit démarrage, mais ça sera pas trop tard. Enfin, ça sera loin d'être fini et il y a beaucoup de choses à faire. J'ai lu un papier là que j'ai adoré, j'aime bien les choses qui, où ça bouge un peu, d'un monsieur qui s'appelle Woody Tosh et qui déplore la crise financière, parce que tout ça, c'est la même chose. Hein, cette...
Et crise globale.
Voilà, une crise globale. Et il fait une comparaison que je trouve extrêmement intéressante. Il dit, on considère l'argent comme la culture, c'est-à-dire que tout, il n'y a plus de culture, en fait. C'est comme un sol en béton où vous faites pousser des tomates qui n'ont plus des têtes de tomates, des pauvres bêtes dans des stabulations qui n'ont même plus des têtes de bêtes, etc., des poulets qui n'ont plus... Et il compare la politique financière à la même chose, c'est-à-dire que l'argent n'a plus son sens, faire de l'argent pour de l'argent, ça ne veut plus rien dire, et donc il veut s'inspirer du mouvement slow food que vous devez peut-être connaître, qui est né en Italie, qui est le retour au bien manger, à laisser du temps au temps, laisser les cultures justement se faire avec la nature, etc. Et il voudrait la même chose avec le système financier. Je trouve que l'idée est géniale. C'est-à-dire que c'est un investisseur, ce monsieur, qui s'appelle Woody Tosh. Et il voudrait, enfin Tosh, je suppose qu'on dit Tosh à l'américaine. Et il voudra en fait que les investisseurs maintenant investissent en prenant du temps sur des sociétés qui font du bio, qui font de l'éthique, et arrêter en fait d'être esclaves de la bourse finalement. Donc peut-être, je sais pas si ça résoudra le problème tout de suite pour les crickets, mais en tout cas à long terme il faut absolument qu'on bouge à tous les niveaux, et notamment financiers.
En tout cas ça irait dans la bonne direction. Autre sujet dans l'actualité, il y a cette réunion sur le changement climatique dans le Pacifique qui réunit 14 états insulaires dans la perspective du sommet de l'ONU dont vous parliez là sur le climat, qui aura lieu en décembre à Copenhague. Selon Patrick Noon, chercheur à l'Université du Pacifique Sud de Fidji, on ne sait pas combien d'îles seront encore habitables en 2100. Il a précisé que certaines pourraient être englouties sous les eaux plus rapidement que prévu et que leurs dirigeants doivent anticiper évidemment l'évacuation des populations menacées. Par exemple, les îles Marshall, Tuvalu ou Kiribati seront directement menacées. Et c'est vrai qu'il y a une certaine injustice quand même terrible pour ces petits états insulaires qui vont payer le plus lourd tribut au climat sans être responsables de la situation.
Ah ben c'est monstrueux. Moi j'ai l'impression qu'on est, comme au 18e siècle, c'est-à-dire que au siècle des Lumières, soit on va réinventer un monde de nouveaux droits de l'homme, les droits de l'homme qu'on a créés ne sont pas suffisants, avec justement le respect des pays du Sud, le respect des différences, etc. Soit ça va être la révolution. De toute façon, je pense que c'est soit l'un soit l'autre, parce que tous ces pays-là vont se révolter et quelque part ils auront raison, parce que c'est eux qui payent de plein fouet nos pollutions, nos inconsciences, etc. Alors c'est vrai, il faut reconnaître qu'on ne le savait pas. Ça a été compliqué. Maintenant, on commence à prendre conscience, donc il faut réagir. Et parfois, ils ont un côté assez humoristique. Je ne sais pas si vous avez vu le Conseil des ministres aux Maldives. Vous savez, il y a deux jours, les Maldives sont aussi, sont aussi très très, c'est dramatique. Elles vont aussi couler dans très très peu de temps. Hein. Je crois que la plupart, 80% des Maldives qui sont à un mètre au-dessus de l'eau, donc c'est rien du tout. Et ils ont fait un Conseil des ministres il y a deux jours à 6 mètres de profondeur, ce qui était une façon assez humoristique de montrer la gravité de la situation. Mais c'est clair. Je dis comme au XVIIIe siècle, soit vraiment tous les intellectuels, les économistes, les politiques et tous, nous aussi, nous changeons notre façon de vivre, soit ça va exploser. Il n'y a pas de solution.
Dans la série « Comment réduire notre impact sur l'environnement », la compagnie aérienne japonaise All Nippon Airways expérimente depuis le 1er octobre une nouvelle façon d'économiser du kérosène. Ils demandent aux passagers d'uriner avant d'embarquer afin de réduire le poids de leur vessie et donc de l'avion au décollage. Selon la compagnie, si la moitié des voyageurs de l'ensemble des vols Swiss Conseil, la compagnie peut réduire ses émissions de CO2 de 4 tonnes de par mois.
J'adore. Mais c'est ça aussi qui est intéressant dans ce domaine-là, c'est que ça rend inventif, débrouillard et parfois insolite. Vous savez qu'il y a eu une campagne au Brésil, pareil, où il faut faire pipi sous sa douche. Mais ça aussi, c'est pareil, parce que plutôt que d'aller tirer la chasse d'eau, si vous le faites sous la douche, c'est tout à fait propre, et ça fait quelques économies, genre 3 litres par jour, un truc comme ça, par habitant, c'est pas mal.
Voilà, toutes les solutions peuvent être bonnes.
Donc RFI s'adresse beaucoup à des voyageurs, donc pensez à faire pipi,
faites pipi
avant
d'abord.
De monter dans l'avion.
Du vent.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI et c'est le moment de notre zoom sur l'actualité d'un continent. Aujourd'hui, direction l'Afrique.
Bonjour Zéphirin Guadio.
Bonjour, bonjour Arnaud, bonjour Anne-Cécile, bonjour à tous.
Alors, on revient sur la situation en Mauritanie où les autorités restent mobilisées face à cette possible invasion de criquets cet automne.
Absolument. À ce jour, les équipes chargées de la lutte anti-acridienne sont parvenues à contenir le phénomène. Vous le disiez, près de 1300 hectares ont été traités avec des insecticides. Mais s'il pleut dans les prochains jours, la situation pourrait s'aggraver. Sur place, on reconnaît que le rythme de ces invasions de criquets s'est accru au cours des dernières années, sans toutefois établir un lien direct avec le réchauffement climatique. Écoutez les explications de Mohamed Abdelahi Ould Baba, il est le directeur général du Centre National de Lutte Anti-Acridienne de Mauritanie.
Ce qui est curieux, c'est que la moyenne actuellement en Mauritanie depuis les 30 dernières années, c'est tous les 2 ans, il y a une activité acridienne mineure. Et sur ces 30 dernières années, pratiquement la moitié de la dernière décennie, depuis la dernière recrudescence 2004-2005, nous avons chaque année une activité acridienne. Donc c'est effectivement curieux, mais les moyens scientifiques aujourd'hui disponibles ne nous permettent pas encore de prouver cela. Si la cascade au niveau pluviométrique est déjà aussi perturbée, qui est lié à ce phénomène de réchauffement climatique, c'est difficile actuellement de trouver les liens entre le réchauffement climatique et ce genre de répétitivité d'événements acridiens dans notre pays et dans le Sahel.
Voilà, c'était Mohamed Abdelahi Ould Baba, le directeur général du Centre National de Lutte Anti-Acridienne de Mauritanie. Il faut ajouter que dès vendredi, l'ONU a tiré la sonnette d'alarme. Selon l'Organisation des Nations Unies, le phénomène qui sévit actuellement en Mauritanie s'est propagé au Maroc et au Sahara occidental et pourrait s'étendre au reste de la région, et l'organisation est d'autant plus inquiète que les conditions météorologiques actuelles sont favorables au développement de ces insectes, vous le disiez.
Autre sujet, autre espace, direction l'Afrique de l'Ouest, cette fois dans un corridor écologique. Alors de quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit d'un corridor transfrontalier situé entre les deux blocs de forêt des parcs nationaux de Sapo à l'est du Libéria et de Taï à l'ouest de la Côte d'Ivoire, où vivent d'importantes populations de chimpanzés. L'objectif de ce projet est d'établir un espace pour protéger ces chimpanzés menacés de disparition. Estimée à plus de 15 000 en 2002, la population de chimpanzés dans cette zone est la plus forte de l'Afrique de l'Ouest. Au cours des dernières années, à cause de la déforestation et du braconnage, la population de primates a chuté et est estimée aujourd'hui à 3 000 individus.
Yolaine Delabigne, vous vouliez peut-être réagir
à... Oui, quand je disais tout à l'heure que chacun d'entre nous pouvait agir, je sais qu'en Namibie, il y a des amis, des terriens qui se sont alliés pour éviter qu'il y ait des barrières, parce qu'on a tendance toujours à mettre des barrières autour de chez soi. Et ils ont acheté des terres de façon à ce que les animaux sauvages puissent aller boire, puisque c'est le gros problème des rares points d'eau qu'il y ait. Donc voilà, je trouvais que ça faisait partie des choses assez exemplaires que j'avais remarquées récemment, en Namibie en tout cas.
Alors à Madagascar, des associations de défense de l'environnement ont découvert de nouvelles zones d'habitation d'un des primates les plus rares de la planète.
Oui, il s'agit du grand lémurien, connu sous le nom de bambou, nom qu'il doit à son régime alimentaire essentiellement composé de bambou, vous l'aurez compris. Le prolémur simus, nom scientifique de ce primate qu'on croyait disparu, a été redécouvert dans les années 80. Aujourd'hui, c'est une nouvelle zone d'habitation de l'espèce qui vient d'être découverte dans un bloc de forêt de plus de 370 000 hectares à l'est de Madagascar. Selon les associations, cette découverte ouvre un nouvel horizon pour cet animal et les lieux où on peut assurer sa protection en préservant son habitat. Selon les spécialistes, le prolémur simus est le primate le plus menacé de la planète avec une population qui ne dépasse pas les 300 individus.
Alors, Yolaine Delabigne, une petite émotion pour ça... le prolémur simus ?
Bien sûr, et ça arrive souvent hein, qu'on redécouvre des races, espèces, des espèces, hein. Soit parce qu'elles ont réussi à se planquer. Il y a eu des orang-outans comme
là,
ça.
C'est le cas, justement, oui.
Voilà, elles ont réussi à échapper à l'homme, elles ont bien raison. Enfin, elles sont malines. Soit parce qu'on ne les connaissait pas. Mais ça fait partie des petites bonnes nouvelles parmi les catastrophes concernant les espèces animales.
Merci Zéphirin Quadio.
C'est pas du vent. @rfi.fr.
Alors Yolaine Labine, pour revenir à Néoplanète, un nom pour une communication multiforme, hein, c'est un magazine gratuit, un site internet, et depuis décembre, une web radio. Alors vous dites que vous jouez sur la séduction pour que les gens aient envie de changer de vie, pour changer le monde.
je me dis qu'il faut qu'il y ait des gens qui donnent la peur, qui fassent peur. Il faut que Nicolas Hulot fasse le syndrome du Titanic. Il faut qu'il y ait des Al Gore, etc. C'est important. Mais il faut aussi qu'on vous donne de l'espoir à côté, parce que sinon vous avez un peu tendance à vous dire oh, au point où on en est, c'est tellement catastrophique, ça sert à rien, polluons, de toute façon, on va tous mourir. Donc moi, c'est le créneau que j'ai choisi, et je pense très très important de donner de l'espoir aux gens. Donc en fait, les magazines que j'ai créés et la radio sont sur trois piliers fondamentaux pour moi. La gratuité. Pas très facile, c'est difficile, mais je pense que c'est important, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de sous, il y a des gens qui ne sont pas très convaincus, il y a des jeunes qui n'aiment pas particulièrement lire les journaux, je sais pas quoi, qui vont prendre ce journal-là. C'est de la pub. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est être très populaire, donc on est très pragmatique, avec des petites infos, on parle de la vie de tous les jours, hein, la cuisine, la mode, la locomotion, etc. Et puis le troisième pilier important, c'est en effet d'être positif, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la culpabilité, on culpabilise pas les gens, on n'est pas dans l'agression ou dans l'accusation. Il y a des tas de choses à dire, mais c'est pas ce qu'on veut. On est toujours à montrer tout ce qui bouge, même si c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Et moi, je pars du principe que si vous lisez ce journal, que vous le fermez et que vous avez déjà envie, ne serait-ce que de manger deux fois par semaine de la viande au lieu de deux fois par jour, de prendre de temps en temps un vélo et le moins possible votre voiture, d'acheter un petit peu bio et de chauffer un peu moins chez vous, rien que ça, c'est énorme. Si des milliers de gens commencent à le faire, ça serait déjà pas mal. Donc voilà, moi j'ai un côté très pragmatique, quoi. Alors chacun son boulot, hein. Il y a des politiques, il y a des économistes, moi je suis journaliste, je fais ce que je peux. Et puis on a une radio avec des gens qui sont très experts, des gens comme Catherine Chabot, qui est la première femme qui a fait le tour du monde sans escale, Gérard Felzer, qui est directeur du musée de l'aviation du Bourget, qui a fait la campagne de Nicolas Hulot, Teddy Follenfant, Jean-Louis Caffier d'LCI, enfin des gens qui connaissent bien leur domaine. Et pareil, on a des entretiens, etc. Mais toujours, on parle de progrès et on incite les gens à bouger, parce qu'il faut vraiment... Vous savez, c'est Gandhi, hein, qui disait qu'il fallait changer le monde en commençant par soi-même. Enfin, je ne sais plus quelle était la phrase exacte. Mais il faut vraiment que chacun d'entre nous change, et on peut le faire. Notre façon de consommer, c'est notre façon de voter. Donc ça ne sert à rien de toujours accuser les autres et de se dire il y a qu'à, il y a Faucon. Et ben, on y va tout de suite. Donc ne serait-ce que dans notre façon de manger déjà tous les jours.
Et justement, vous avez une web radio, un site, donc c'est très interactif tout ça. On voit hein, d'ailleurs sur la page de votre site comment les gens réagissent. Globalement, est-ce que vous avez l'impression que votre message est bien perçu et que vraiment ça percute ?
Plutôt très bien. J'avais très peur de me faire un peu casser par les écolos purs et durs, et pas du tout, parce qu'ils voient bien qu'on essaye de vulgariser les choses et de les rendre agréables à lire. Et il y a beaucoup de gens, surtout, qui sont a priori pas spécialement sensibles à cette cause-là, qui justement viennent parce qu'on leur fait pas peur. Donc pour l'instant, écoutez, je touche du bois, mais pour l'instant, c'est plutôt très bien ressenti pour eux que ça dure.
Alors c'est vrai que à court terme, c'est quand même les pays du Sud qui vont être les plus touchés.
C'est clair, malheureusement.
Est-ce que justement ce ton un petit peu léger, finalement, répond aussi à ces pays du Sud qui sont quand même confrontés à une réalité beaucoup plus dure que celle que nous avons chez nous.
Nous, en tout cas pour les pays du Nord, on va essayer qu'on aide un peu plus les pays du Sud, ne serait-ce que par exemple à acheter équitable, c'est quand même pas très compliqué à faire et ça vous pouvez le faire tous les jours, à aider des sociétés qui travaillent dans le Sud et qui les aident, à aider, on parlait tout à l'heure de semences et de cette pauvre Afrique qui a été tellement pillée au niveau des semences, il y a des tas d'ingénieurs agronomes, des tas d'associations qui luttent pour justement préserver les plantes et la faune et la flore d'Afrique et les aider, etc. Donc il y a des tas de choses qu'on peut faire, vraiment, et ne serait-ce que, par exemple, aider, apprendre aux gens à faire du tourisme. Ils vont en Afrique, à arrêter de se conduire parfois comme des bœufs, respecter ce pays, respecter ses habitants, respecter ses paysages. Oui, donc je pense qu'il y a du boulot à tous les niveaux.
Merci, Yolaine Delabine, d'être passée dans C'est pas du vent. Votre magazine de l'environnement continue juste après un bref rappel de l'actualité.
Nous irons au Bénin avec un reportage de Lydia Benitzak. A tout de suite.